This is Radio Free Europe.
Minutos en Colombia.
Radio France Inter. Le 18-20.
Le 18-20 ce soir aux États-Unis et en Inde. D'ailleurs, dans Le Monde, le journal de l'international de Michael Thébault. Cinéma, Eva Bétan viendra nous parler du film Brooklyn Village. La revue de presse des correspondants de France Inter passera par la Chine et le Sénégal. Dominique André et Amélie Tullet. 18h55, l'édito d'Anthony Bélanger sur une bibliothèque, une magnifique bibliothèque qui rouvre ses portes au Maroc, dans la ville de Fès. Mais tout de suite, direction Charlotte, Caroline du Nord.
Nicolas Demorand, un jour dans le monde.
Charlotte, où la police a abattu mardi Keith Lamont Scott, un Afro-Américain de 43 ans. Sa sœur raconte.
They jumped out their truck. They said hands up. He got a gun. He got a gun. Pow 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 pow. That's it. He had no gun. People are calling my phone saying that your brother had a gun. He had no gun.
He didn't have no gun.
Il est sorti les mains en l'air, la police a tiré, il n'avait pas de revolver, dit-elle. La suite, et je cite là les premières lignes dramatiques, presque romanesques, de la dépêche AFP tombée ce matin vers 10h. Je cite, des manifestants lançant des projectiles, la police anti-émeute répliquant avec du gaz lacrymogène, et tout à coup, une détonation qui retentit et un homme qui tombe. La ville américaine de Charlotte vit une nouvelle nuit d'affrontement. Fin de citation. Bonsoir François Durpère.
Bonsoir Nicolas Demand.
Spécialiste des États-Unis, parmi vos très nombreux livres, je citerai Les États-Unis pour les nuls chez First. Toujours le même enchaînement tragique, un homme noir abattu par la police, des émeutes violentes. Rien ne change donc jamais aux États-Unis.
Si on prend le temps long, comme disait Brodel, 1935, les émeutes de Harlem, un homme noir qui est tabassé par la police blanche, un corbillard arrive, une ambulance, une femme témoin, et cela s'embrase, et les magasins sont pillés. Ça, c'est 1935. 1968, deux nations, noires et blanches, séparées, inégales, c'est le rapport Kerner. 1992, 50 morts, Los Angeles, suite à l'acquittement des policiers qui ont tabassé Rodney King, on se souvient de ces images. Et si on prend le temps court, eh bien, on peut dire que depuis 2013, il y a l'émergence de ce mouvement Black Lives Matter, la vie des Noirs compte. Black and Brown, la vie des Noirs, la vie des Hispaniques compte. Et ce mouvement, il est né en 2013, au moment de l'acquittement de Zimmerman, qui a tué Trayvon Martin. Vous vous souvenez des propos d'Obama, il y a 35 ans, j'aurais pu être Trayvon Martin. Donc il y a presque cette idée que c'est un éternel recommencement. En même temps, c'est pas tout à fait juste. Donald Trump l'a dit il y a quelques heures, nous vivons la période la plus dure pour les Noirs américains. Réponse de John Lewis, militant des droits civiques, compagnon de Martin Luther King. Donald Trump n'a pas vécu l'esclavage, Donald Trump n'a pas vécu la ségrégation raciste. Donc nous ne vivons pas la pire période pour les Noirs américains de ce pays, mais en tout cas, le racisme n'est pas définitivement passé.
Mais il y a quelque chose qui défie l'entendement, je trouve, dans la répétition à l'identique de ces événements. Toujours le même scénario, toujours le même enchaînement de faits. Il n'y a pas eu ces derniers mois une tentative, François Durpère, de réformer les manières de faire régner l'ordre, à défaut de réformer les entendements.
Alors, est-ce qu'on peut réformer l'un sans réformer l'autre? C'est la question est très juste, parce qu'il y a deux problèmes. Il y a le problème de 173 hommes noirs tués par la police depuis le début de l'année 2016. 173. Mais il y a 106 personnes tuées par la police, noires, hispaniques, blanches, suite à des interpellations policières. Ça n'a évidemment rien à voir avec aucun des pays d'Europe. Donc il y a ces deux problèmes. Le premier problème, c'est évidemment la prolifération des armes, qui fait que quand les policiers interviennent sur le terrain, eh bien, ils peuvent se dire, il y a une arme dans la boîte à gants, il y a une arme, et on est menacé, l'équipe est menacée. Mais il y a, dans le cas des hommes noirs, quelque chose de supplémentaire. C'est que lorsque cet homme noir n'est pas armé, et vous avez vu ces images de la semaine dernière, je parle de Terence Crutcher, qui sort du véhicule, qui a les mains, de toute évidence, il n'est pas armé. Et il y a cinq policiers face à lui. Cinq policiers face à lui, et tout d'un coup, ils se mettent à faire feu. Et la police, depuis, a dit, effectivement, il n'était pas armé. Effectivement, il n'avait pas d'armes dans ce véhicule. Alors, évidemment, il y a des efforts qui ont été faits, mais les polices, on le sait, sont locales aux États-Unis. Donc, de plus en plus de polices ont ces fameuses vidéos embarquées. Pour le moment, ça ne fait pas changer l'ensemble du pays. Il n'y a pas, comme en France, une police nationale avec un ministre de l'Intérieur qui pourrait dire
oui, « c'est pas possible ».
Et oui, là, c'est évidemment, donc c'est plus compliqué. C'est un État fédéral. Il y a des polices, il y a des justices, mais en tout cas, il y a une réalité, c'est qu'aujourd'hui, la communauté noire, 39 millions d'Américains, quelles que soient leurs origines, j'ai des amis qui sont universitaires, qui sont juges, qui sont avocats noirs, et qui me disent, François, nos enfants, on les élève en leur disant il faut respecter la police, mais faire très attention.
Et obtempérer.
Obtempérer, mettre les mains. Mais vous savez, le papa de monsieur dont je vous ai parlé tout à l'heure, il est pasteur, et il racontait dans les médias américains qu'il avait appris ça à son fils. Il lui avait appris justement à mettre bien les bras en l'air. On le voit sur la vidéo, il le fait. Et malgré ça, il est abattu par la police.
Quel bilan dans ce contexte tiré de l'action de Barack Obama sur la question des races? Il avait fait un discours époustouflant sur l'Amérique post-raciale.
Il avait fait un discours époustouflant sur l'Amérique post-raciale, déjà. Il pensait que l'Amérique allait pouvoir dépasser ses problèmes. Mais dans ce discours-là, il y avait quelque chose qui préfigurait un petit peu ce qu'on connaît. Il disait l'Amérique est... Il a cité un écrivain américain. Il disait finalement, le passé n'est pas mort et enterré. D'ailleurs, le passé n'est pas passé. Et effectivement... Il va faire un grand discours samedi, puisque samedi, Barack Obama inaugure le grand musée d'histoire afro-américaine.
Donc, on va en parler tout à l'heure dans l'émission avec Frédéric Carbone.
Voilà, le bilan, il va le faire lui-même. Mais en tout cas, ce qu'on peut voir, c'est que l'État fédéral n'a pas été proactif pendant cette période. Et dans l'histoire américaine, c'est l'État fédéral, Washington, qui fait avancer les choses. Les années 60, il y a Martin Luther King, il y a le mouvement des droits civiques, mais il y a Lyndon Johnson et la loi de 64 et la loi de 65. Et même Richard Nixon, qui n'est pas le plus progressiste des présidents américains, c'est lui qui met en place la politique affirmative action avec des objectifs chiffrés. Lyndon Johnson a commencé, Nixon a continué. Quand l'État fédéral ne prend pas le problème en main, eh bien peut-être que Barack Obama, se disant « je suis un président noir dans une Amérique qui a voté pour moi », il a peut-être tellement voulu être prudent qu'il n'a rien fait. Il avait dit déjà « je ne ferai pas de politique race spécifique, pas de politique pour une communauté ».
Alors je voudrais, ça ne vous a pas échappé, c'est la campagne présidentielle aux États-Unis, vous faire écouter l'extrait d'un discours de Donald Trump. C'est un appel musclé à la communauté noire, c'était le 19 août dernier dans le Michigan.
Qu'est-ce que vous avez à perdre en essayant quelque chose de nouveau comme Trump? Vous vivez dans la pauvreté, vos écoles ne sont pas bonnes, vous n'avez pas d'emploi, 58% de vos enfants n'ont pas de travail. Bon sang, qu'est-ce que vous avez à perdre?
Votez pour moi, dit Trump à la communauté noire. Quel espoir a-t-il d'être entendu?
Alors depuis, beaucoup de Noirs lui ont répondu. Beaucoup de citoyens américains noirs lui ont répondu en disant ce qu'on a à perdre, c'est le stop and frisk, c'est-à-dire la politique que vous proposez pour la police américaine. Qu'est-ce que ça veut dire stop and frisk? C'est arrêter la personne, la fouiller. Il a renouvelé sa proposition dimanche, c'est-à-dire après, vous savez, les attentats dans le New Jersey et à New York, le profilage racial. Il a dit « je suis pour le profilage racial ». Voilà ce que la communauté noire a à perdre. C'est-à-dire une situation encore pire où on dit à la police « mais allez-y à fond, interpellez les gens sur leur couleur de peau et allez-y à fond ». Voilà ce que propose Donald Trump. Donc, il y a quelque chose, en tout cas, c'est que la communauté noire sera peut-être plus qu'on ne le pensait il y a quelques mois, un des enjeux de la campagne présidentielle.
Elle sera au cœur de la campagne.
Pour une raison simple. Hillary Clinton, vous avez remarqué la prudence d'Hillary Clinton dans cette période-là. La communauté noire, pourquoi on dit que ça n'est pas un enjeu? Il y a 39 millions de Noirs américains, mais ils votent à 90% pour les démocrates, tout le temps. Mais par contre, L'enjeu, c'est la mobilisation. Or, la communauté noire s'est mobilisée fortement en 2008 pour l'élection de Barack Obama, en 2012 pour sa réélection. Et vous regardez par exemple les chiffres dans l'Ohio, la communauté noire a pesé fortement pour la réélection de Barack Obama. Si Hillary Clinton a 90% du vote noir, mais de vote noir qui ne se déplace pas, eh bien ça va être un problème pour elle. Donc peut-être que Donald Trump se dit évidemment bien que la communauté noire ne va pas voter pour lui, mais jeter le trouble pour que cette communauté noire ne se mobilise pas en se disant finalement qu'est-ce qu'on a gagné depuis 8 ans. Est-ce que Hillary Clinton va nous proposer quelque chose pour faire cesser cette situation? Eh bien, peut-être qu'effectivement, ça sera un des enjeux de la campagne.
Et les autres minorités, François Durper, c'est ma dernière question. Quel rôle dans l'élection à venir?
On peut penser que ça sera un référendum, cette élection. Tant les deux personnalités sont assez controversées. Hillary Clinton, Donald Trump. Est-ce que ça va être un référendum anti-Clinton ou un référendum anti-Trump? Si c'est un référendum anti-Trump, la mobilisation des minorités sera déterminante dans certains États. On pense évidemment à la Floride et on pense évidemment au vote hispanique. Pendant 15 mois, Donald Trump, c'est comme ça que c'est identifié, c'est pas moi qui le dis, a été identifié comme quelqu'un qui insultait la communauté hispanique. Et pour l'instant, le différentiel est terrible entre Donald Trump et Hillary Clinton en faveur d'Hillary Clinton dans cette communauté. On peut penser donc que le vote des minorités, mais aussi le vote féminin, sera une des clés du vote du 8 novembre prochain.
François Durper, merci. Spécialiste des États-Unis. Les États-Unis pour les nuls chez First et l'ensemble de votre bibliographie sur le site internet de France Inter. Dans quelques instants, la revue de presse des correspondants d'Inter à travers le monde. Mais tout de suite, vous devez le reconnaître, John Lee Hooker. Boom boom.
Boom 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 boom. Gonna shoot you right down. At all your feet. Take you home with me. Put you in my house. Boom 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 boom. Mm-hmm. I love to see you walk up and down the floor. When you're talking to me, that baby talk. I like it like that. When you talk like that, you knock me dead. Right on my feet. How, 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 how. Talk that talk and whisper in my ear. Tell me she love me. I love that talk, that baby talk. She knocks me dead right off my feet. How, 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 how. Yeah, yeah. My baby.
Boum boum, John Lee Hooker sur Inter, il est 18h30.
12 del día, 9 minutos en Brasil.
Revue de presse internationale,
Londres, Antoine Gignot, France Inter.
Bonsoir Omar Waman.
Berlin, bonsoir Cyril Sauvageau.
Bonsoir.
Bonsoir Marc Crépin.
Bonsoir.
Jérusalem, Étienne Monard.
Bonsoir, heure de Paris, bonjour, heure de chez vous.
La revue de presse des correspondants d'Inter avant de filer en Chine, direction le Sénégal. Amélie Tullet, bonsoir.
Bonsoir Nicolas.
Une semaine marquée chez vous par des violences meurtrières à la prison centrale de Dakar.
Oui, la prison de Rebeus, une prison vétuste en plein cœur de la capitale sénégalaise. Plus de 2000 détenus s'y entassent pour une capacité de 600 prisonniers. Mardi, des affrontements ont éclaté. Les autorités parlent d'une tentative d'évasion collective. Dans les journaux, le directeur de l'administration pénitentiaire raconte « Mardi, profitant des visites et de la promenade, un groupe d'au moins 600 détenus a foncé vers la porte principale en fin de matinée. Les agents en service ont donc utilisé les moyens à leur disposition pour les contenir. L'État ouvre le feu sur des détenus », écrit Walfadjri. Bilan officiel, un mort et une trentaine de blessés parmi les prisonniers, une quinzaine de blessés chez les gardes. Le quotidien L'Obs titrait hier « Rebeus au point mort, les droits de l'hommiste réclament sa fermeture ». L'Obs rappelle que depuis plus d'une semaine, il y avait des mouvements d'humeur dans la prison. Les détenus n'en peuvent plus des détentions provisoires qui s'éternisent en attendant un jugement. Ils souffrent aussi de la promiscuité, une promiscuité asphyxiante en cette période de forte chaleur. Le journal Le Quotidien résume « Il y en a marre de Rebeus
». Et ce jeudi, la surpopulation carcérale au Sénégal est toujours à la une, hein, Amélie.
Le journal L'Enquête ouvre sur la situation explosive dans les prisons sénégalaises. Dans le quotidien Le Populaire, un avocat dénonce une politique uniquement répressive où la détention est systématique et les délais pour un jugement trop longs. Le Populaire donne aussi la parole à un sociologue. Selon ce dernier, les prisonniers sont des morts-vivants qui ne votent pas. Les prisons ne sont pas un business rentable. Par conséquent, le sort des détenus n'intéresse personne. L'Obs signale que le procureur de la République s'est auto-saisi de l'affaire pour ouvrir une enquête et le sujet devrait encore occuper les rédactions sénégalaises car après Rebeus, Thiès se révolte, signale le journal L'As. Thiès, ville située à 50 km de Dakar, où là des détenus ont entamé une grève de la faim.
Autre sujet dans la presse sénégalaise, Amélie, la venue du Premier ministre français Manuel Valls à Dakar ce jeudi.
Alors pour l'instant, cette visite n'est mentionnée que dans les brèves, les entrefilés ou la page off des quotidiens. Mais on pouvait lire ce matin que le collectif Non aux APE prévoyait de manifester cet après-midi. Le collectif dénonce la signature des fameux accords de partenariat économique, accords de libre-échange qui prévoient la suppression des droits de douane sur la majorité des produits exportés par l'Europe vers l'Afrique de l'Ouest. Et pour finir, petit clin d'œil, sachez Nicolas que les journaux sénégalais sont encore en mode série d'été, car la rentrée des classes, ça n'est pas avant le 4 octobre. L'occasion donc de parcourir le pays tout en restant à Dakar. Mais attention, L'Obs, cette semaine, a froissé des susceptibilités dans ses cahiers vacances. Dans la rubrique « La tradition expliquée aux plus jeunes », le journal parlait hier de la communauté Mansoïké dans la région de Kolda. Le journal affirme que les Mansoïké raffolent de charognes animales. Colère des membres de cette ethnie et droit de réponse outré aujourd'hui dans l'Obs pour démentir une telle pratique culinaire.
Amélie Tullet au Sénégal, merci. Et bonsoir Dominique André. Vous êtes avec nous en direct de Pékin ou pas? Alors visiblement on a un petit problème de liaison avec la Chine. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que Dominique André est là? Elle n'est pas là, me dit-on, dans le casque. On va mettre un petit peu de musique, le temps de repartir à Pékin. I've never been alone, long enough to know if I ever was a child. Like a boat on button like a coat, set free for a while. Well, I jump to jolt my clumsy blood while my white green eyes cry like a window pane. Cold heart change, even out of spite. I
it stain never fades. I hope for the kind of pain I can take.
If I ever was a child, Wilco sur Inter. Bon, on a définitivement perdu la Chine et Dominique André, mais on va aller ailleurs dans le monde.
24 minutes.
BBC's Brian Hanrahan.
Buenos días, comienzan las comparecencias.
Thanks so much for that report.
Avec Michael Thébault, bonsoir.
Bonsoir Nicolas.
Direction New Delhi pour commencer en Inde pour parler d'un tabou qui est en train de voler en éclats, la sexualité, Michael.
Ouais, ça commence hein, en tout cas, car le Kama Sutra a beau être indien, il demeure très très difficile de parler de sexe aujourd'hui en Inde, dans cette société encore ultra-patriarcale et où les violences envers les femmes, vous le savez, restent quotidiennes, presque banales et surtout banalisées. Souvenez-vous de ce viol collectif dans un bus de New Delhi en décembre 2012. Viol qui avait coûté la vie à une jeune étudiante de 23 ans. La brutalité de l'agression et l'inertie des pouvoirs publics avaient suscité des réactions populaires sans précédent. Enfin, l'ouverture d'un véritable débat national, public. Et en parallèle à cela, Nicolas, une autre réalité commence effectivement aussi à émerger. L'émancipation sexuelle de la jeunesse urbaine, à travers notamment les applications de rencontres sur smartphone, applications utilisées aujourd'hui par des millions d'Indiens. Bonsoir Sébastien Farcy, en direct de New Delhi.
Bonsoir Mickaël, bonsoir à tous.
Alors vous êtes allé hein, justement à la rencontre de cette jeunesse connectée et décomplexée.
Oui, tout à fait. J'ai d'abord rencontré pour cela Lily, une charmante étudiante en master de 25 ans, et bien dont la vie sexuelle et même sentimentale a beaucoup changé ces derniers temps grâce à ses applications pour smartphone. Il y a un an, c'est même sur Tinder qu'elle a rencontré son partenaire actuel. Écoutez-la.
Je pense que beaucoup d'hommes en Inde agissent de manière oppressive avec les femmes. Ils ne savent pas comment les approcher et n'acceptent pas un non. Tinder vous offre beaucoup plus de contrôle. C'est moi qui fais glisser le profil à droite s'il m'intéresse. Vous pouvez aussi bloquer ou dénoncer quelqu'un, ce qui est très pratique. Grâce à ces plateformes, je suis donc sortie avec plus d'hommes.
Et que disent justement ces hommes de tous ces changements, Sébastien ?
Eh bien, j'ai été voir l'un d'entre eux, justement, Mickaël, pour le savoir, dans sa chambre de célibataire située sur les toits de la capitale. Ishan, 31 ans, vit à fond cette révolution sexuelle. Fini pour lui les cafés interminables pour apprendre à mieux connaître une femme dans un environnement sûr et neutre. Il y a deux semaines, il me disait qu'il a connu une fille grâce à Appen, une application française qui est en train de faire un tabac ici. Cette jeune femme est venue le rencontrer directement chez lui lors d'une fête qu'il organisait. Ils ont et elle a fini par emménager dans l'appartement d'à côté, en tout bien, tout honneur, enfin pour l'instant en tout cas. Pour Ishan, le changement apporté entre autres par ces nouvelles technologies a été fulgurant.
Les jeunes d'aujourd'hui, ils ont des petites copines dès 16 ans. Ils sortent ensemble, voire ils couchent ensemble. Moi, j'ai jamais eu de copine jusqu'à l'université, et encore, c'était une relation sérieuse. Et en 10 ans, ça a radicalement changé. Des gens se voient parfois juste pour coucher ensemble maintenant. Et puis les femmes, elles sont devenues bien plus malines, elles savent ce qu'elles veulent. Quand vous parlez sur une application, si la fille aime la conversation, elle va continuer. Sinon, elle va tout arrêter. Et c'est ça qui est bien avec ces applis. C'est qu'on peut opérer cette vérification en amont.
Ce libertinage, Michael, mène parfois à des histoires sérieuses. Un ami d'Ishan est ainsi sur le point d'épouser une femme qu'il a rencontrée sur Tinder. Mais même une fois marié, ces applications peuvent toujours demeurer utiles pour compenser des manques dans le couple. Et c'est ce que m'explique Priyanka, elle est âgée de 28 ans.
Beaucoup
de mes copines mariées deviennent bisexuelles, car elles me disent comment leur mari fait l'amour avec elles. C'est ainsi, le mec est excité, il l'approche, il éjacule et puis c'est fini. Pas de préliminaire, ni de réflexion sur ce que la femme a ressenti ou ce qu'elle aimerait explorer. La femme devient donc frustrée et grâce à Internet et aux différents sites, elle peut rentrer en contact avec d'autres femmes pour une relation plus épanouissante.
Voilà, très clair, hein, même s'il faut bien redire, Sébastien, que cette révolution ne touche pour l'instant qu'une minorité urbaine de l'Inde.
Oui, tout à fait. Aujourd'hui, à peine un quart des Indiens ont accès à Internet sur leur mobile, mais ce marché est en pleine explosion. 100 millions de nouveaux smartphones ont été vendus en Inde rien qu'en 2015, et on estime que près de 10 millions de jeunes utilisent les trois principales applications de rencontres, dont deux ont d'ailleurs été créées en Inde.
Passionnant, Sébastien Farcy, en direct de New Delhi. Merci.
Et après l'Inde, cap maintenant sur les États-Unis, Michael, pour l'inauguration du dernier né des grands musées nationaux américains.
Et un musée, vous allez le comprendre, qui entre évidemment en résonance avec l'actualité de ces dernières 24 heures. Et on en parlait en début d'émission, Nicolas, puisque ce musée, officiellement inauguré après-demain, samedi à Washington, par Barack Obama, sera consacré à l'histoire des Afro-Américains, pour ne pas dire, ce qui serait de fait un mauvais raccourci, l'histoire de l'esclavage aux États-Unis. Mais il en sera évidemment et largement question. Bonsoir Frédéric Carbone en direct de Washington.
Bonsoir Michel, bonsoir à tous.
Alors vous avez pu en avant-première, s'il vous plaît, pour nous, visiter les 6 étages de ce gigantesque bâtiment. Musée qui après des décennies d'hésitation, de tergiversation, va donc enfin voir le jour. Et à quelques semaines, tiens Frédéric, de la fin de règne du premier président noir des États-Unis.
Oui, Barack Obama prononcera, vous l'avez compris, le discours d'ouverture samedi, mais c'est effectivement l'aboutissement d'un très long combat, puisque le projet est évoqué pour la première fois il y a un siècle. Projet de dédier un des grands musées de Washington à l'histoire et à l'apport des Africains-Américains à ce pays. Il faut savoir que jusqu'à récemment, l'esclavage n'était pas enseigné aux États-Unis. Donc la construction a été lancée du temps de George Bush, largement de l'argent privé. Oprah Winfrey, la star de la télévision, a donné par exemple plus de 20 millions de dollars. Et surtout, il y a eu des dizaines de milliers de donateurs modernes, comme Sheldon LaRoche, un militant de la lutte pour les droits civiques dans les années 60.
Aussi loin que je me souvienne, j'ai donné de l'argent. Je suis impliqué depuis le début en 2005. Pour moi, c'est comme l'élection de Barack Obama. Je n'aurais jamais imaginé que cela arrive de mon vivant. Donc j'ai un attachement personnel, une foi dans ce musée. Je veux que cela se sache, et particulièrement dans cette période où le pays est tellement divisé. Mais maintenant, les gens pourront se rendre ici et se faire leur propre opinion.
Et un musée qui se veut évidemment populaire, pédagogique, didactique, musée du peuple, tout autant que mémoire du peuple, dans sa quotidienneté, hein, Frédéric.
Absolument, et c'est sa grande particularité. Évidemment, on est dans l'histoire, la grande histoire, dans la pédagogie, mais on est surtout dans les plantations de coton du sud esclavagiste, dans les toilettes réservées aux noirs du temps de la ségrégation, ou sur un terrain de baseball où joue le premier noir autorisé à être dans la même équipe que des blancs. Vous avez donc plus de 100 000 objets personnels donnés par des familles dans tout le pays, et ça, c'est la fierté de John Franklin, un des conservateurs.
Souvent, les musées parlent que des gens fameux ou célèbres. Ici, nous essayons de souligner l'histoire des gens de tous les jours pour raconter l'histoire de nos familles. Les objets que vous avez vus viennent surtout des individus qui ont gardé ces souvenirs. Une fois qu'ils ont entendu parler de musées, ils voulaient offrir ces objets réels, ces objets authentiques.
Et John Franklin, par exemple, il est allé régulièrement pendant 6 ans dans la ville de l'Oklahoma où vivaient ses ancêtres, où il y avait eu 300 morts un jour où les Blancs étaient venus prendre les terres. Donc pour retrouver des lettres et des objets de la maison familiale. Il y a donc les vies anonymes, mais le même principe s'applique aux héros des combats africains-américains. Là, par exemple, nous sommes dans la salle qui est consacrée à Harriet Tubman, figure de la lutte contre l'esclavage et dont le visage ornera bientôt le billet de $20 aux États-Unis. Il y a un châle offert par la reine d'Angleterre et un carnet de musique, par exemple, pour Mary Elliott, qui nous fait cette visite, qui est chargée de cette partie du musée. C'est absolument indispensable pour pouvoir s'identifier.
Tout le monde peut se reconnaître là-dedans. Qu'auriez-vous fait si vous aviez été Harriet Tubman, si vous aviez été esclave, sachant que tant d'autres voulaient eux aussi conquérir leur liberté comme vous? Auriez-vous pris ce risque de retourner pour les délivrer? Auriez-vous risqué votre vie? Tous ces objets représentent une vie, une personne, une vie honorable.
Voilà, formidable voyage hein, dans le temps et surtout, on le comprend, dans l'intimité des Américains, Frédéric. Et voyage, vous nous le disiez, dont on ne ressort pas indemne. Hein.
Absolument. Vous avez d'ailleurs à un endroit une salle de méditation, comme un sas pour digérer et réfléchir. Quand je faisais la visite, j'avais des journalistes américains à côté de moi qui étaient en larmes à certains endroits. Alors, l'ouverture au public, elle sera le week-end prochain, mais déjà des donateurs, des gens qui ont été associés à l'émergence de ce lieu ont pu le voir. C'est le cas de Donna Marie Owens et voilà son sentiment à la fin de la visite.
C'est un sentiment indescriptible. C'est à la fois de la tristesse, de la joie, c'est aussi une forme de triomphe et un hommage magnifique à la façon dont notre peuple a traversé ces siècles avec ténacité, dans le sang, la sueur, les larmes et la souffrance. Et malgré tous ces défis et toutes ces luttes, nous avons survécu et nous en sommes là.
Oui, nous sommes là, dit cette femme, au cœur de Washington, à deux pas du monument dédié au premier président américain. C'est notre maison, enfin, dans la capitale américaine, disent les représentants de la communauté noire. Les conservateurs veulent aussi faire de ce musée le lieu de débat sur la question raciale. Vous en parliez, Michael, question toujours aussi sensible aux États-Unis.
Ok, oui, Frédéric Carbone, en direct de Washington, merci beaucoup. Et donc, inauguration de ce musée samedi par Barack Obama et ouverture publique dans les jours qui vont suivre.
Et pour finir, Michael, l'incroyable succès de l'iPhone 7 en Chine.
Ah oui, succès commercial, ça on l'a vu tout à l'heure, mais aussi succès populaire au rayon raillerie des réseaux sociaux. Ah. Et là, c'est vers Taïwan et Hong Kong qu'il faut se tourner, Nicolas, car les subtilités linguistiques du cantonais local ont visiblement échappé aux as de la com et du marketing d'Apple, les petits génies de Cupertino qui ont oublié que le mot « 7 » se prononçait d'innombrables façons et à chaque intonation différente, un sens différent. Illustration.
« Chi, chi » qui signifie « 7 ».«
Chi ».«
Chi ». Un bec de canard, chiffre 7, chi, chi, chi.
Voilà, chi pour le chiffre 7, mais aussi chi, et je le prononce évidemment très mal, Nicolas, pour dire bec de canard. Et malheureusement pour Apple, il y a encore une autre prononciation, celle-ci.
Chi, chi, shi.
Et là, on est loin. Très loin du bec de canard, puisque prononcé ainsi, cela veut dire pénis, ou selon l'accent plutôt hongkongais d'ailleurs, kékette, avalanche de plaisanteries grivoises et de détournements de pubs sur internet, mais aussi avalanche de ventes pour l'iPhone kékette. À lundi, Nico.
Je vais m'en acheter un, à lundi, Michael.
Moteur !
Un jour dans le monde. Nicolas Demorand. Sur France Inter.
Oh putain, moteur !
Il est 18h50, un jour dans le monde très très américain aujourd'hui. Eva Bettan, bonsoir.
Bonsoir, on continue d'ailleurs.
Oui, on continue. Cinéma Brooklyn Village de
Ira Sachs.
Voilà, dites-nous tout.
Alors, on a déjà notre New Yorkais chéri, il s'appelle Woody Allen. Nous en avons un autre avec Ira Sachs. Je dirais que c'est pas le même New York. Dans les films, surtout les films récents de Woody Allen, les gens n'ont jamais de problème matériel. Ils ignorent ce que c'est. Chez Ira Sachs, il y en a un peu plus. Alors, c'est pas non plus le Ken Loach de l'Amérique, hein. C'est pas le prolétariat. Il va parler d'une classe moyenne éduquée et un peu fauchée. Peut-être certains de ceux qui nous écoutent ont vu son film précédent qui était formidable, qui s'appelait Love is Strange. C'était un couple d'homosexuels âgés qui vivaient ensemble depuis longtemps et qui se marient. Lui était prof de musique et il se fait renvoyer. Et donc, ils sont obligés de lâcher leur appartement et ils vont vivre chacun chez des amis. Eh bien, on est dans le même milieu, si vous voulez. On appellerait ça des bobos. Le film s'appelle donc Brooklyn Village. Elle est psy et lui est un acteur qui joue Tchekhov, Sef, mais rarement, je dirais un acteur plutôt raté qui ne gagne pas d'argent. Donc, mais je dirais qu'ils sont ouverts, tolérants. Ils ne le disent pas, mais ils sont démocrates à mort. Et ils héritent d'une maison à Brooklyn. Ça tombe bien, ils déménagent à Manhattan, ça leur fait une économie de loyer. Et au rez-de-chaussée, il y a une boutique qui est louée depuis très longtemps par une vieille couturière sud-américaine qui était l'amie du papa, mais qui paye une misère. Quand vous avez comme ça plein de convictions, vous dites, bon, je ne vais pas le commencer autant que le marché le voudrait, un peu moins. Mais même ça, elle ne peut pas. Et en plus, elle fait la gueule. Et ce film est formidable parce que, je veux dire qu'il y a beaucoup de thèmes traités, mais je vais être lourde en le disant, quand je vous dis ça part, je dirais que ça part de la gentrification, comment les gens partent des quartiers populaires, sont chassés des quartiers populaires pour aller plus loin et qui deviennent bobos, qui deviennent bourgeois, etc. Ça parle aussi de l'écart entre les valeurs qu'on professe et celles qu'on met en valeur. Il y a aussi un formidable film sur l'enfance, parce que tout ça, la très belle idée, c'est de voir ça du côté des enfants qui sont amis, qui ont 12-13 ans, les questions d'argent, ça n'existe pas. Et c'est un très beau film sur la Donc il y a beaucoup de choses, mais une chose qui m'a beaucoup intéressée, notamment, entre autres, c'est la notion de classe sociale. Il n'y a pas tellement de différence entre la couturière et les propriétaires. Leur maison, elle n'est pas terrible, quoi. Mais il y a une grosse différence entre être pauvre et fauché. Être fauché en ayant hérité d'une maison et en étant éduqué, en étant américain depuis longtemps, et être pauvre, il y a une différence. Alors, tout ceci va être en filigrane, en petites touches. Le réalisateur, ses cinéastes préférés, c'est Satyajit Ray, c'est Ozu, c'est Piala. Et quand il vous cite des écrivains, vous allez voir, il y a un certain nombre de références. Donc n'attendez pas de grandes déclarations, tout est subtil même quand il parle.
L'argent apporte un élément dramatique dans nos vies à tous, même chez les très riches et bien sûr chez les pauvres. Dans les livres et les films dont je me sens proche, il arrive souvent que les auteurs soient sensibles à la manière dont l'économie a de l'influence sur nos vies. Pour ce qui est des histoires new-yorkaises, je pense à des écrivains comme Henry James ou Edith Wharton. Pour la France, on pourrait dire Proust. Ces auteurs montre l'influence de la classe sociale, des différences sur la vie des gens.
I don't want to move to Brooklyn.
Is that woman waiting for us?
No, she rents the store downstairs.
I'm so sorry.
On imagine toujours que, on se dit, mais comment je me comporterai pendant la guerre? Mais si tous les jours qu'on a l'occasion de se comporter selon nos valeurs ou de trahir nos valeurs?
Ce sont les deux faces de la même pièce. Il y a ce que vous dites et il y a ce que vous faites. Et souvent, il y a conflit. Surtout lorsqu'il est question d'argent. Les gens alors font des choix de manière plus animale, des choix basés sur leurs besoins et sur leurs peurs.
Say something, Jake!
Formidable.
Je vous ai dit subtil. Hein.
Oui, incroyable.
Voilà. Donc, je ne vous promets pas le grand soir. Hein. Voilà. Il faut bien savoir, vous allez voir, c'est par petites touches. Je vais vous rappeler deux ou trois films, peut-être.
Oui, avec
je vais vous
plaisir.
Rappeler qu'il y a le film de Xavier Dolan. Vous allez d'abord surpris en voyant la perruque de Nathalie Baye, mais vous verrez, sous ce langage heurté et tout, il y a aussi énormément de sentiments de sensibilité. Il y a aussi un film réalisé par un cinéaste d'origine italienne qui fait son film américain. Il s'appelle Rafi Pitt et le film s'appelle Soy Nero. Et c'est l'histoire, c'est sur un sujet méconnu, comment des Mexicains qui ont vécu aux États-Unis, qui ont été expulsés pour avoir la nationalité américaine, vont s'engager dans l'armée. Mais ce n'est pas tant le problème qu'il va traiter que la question de l'errance, en quelque sorte, de l'étranger.
Merci beaucoup, Eva Bétan. C'est un bonheur de vous entendre.
France Inter, le 18-20. Un jour dans le monde.
Et lui aussi, Anthony Bélanger, bonsoir.
Bonsoir Nicolas, bonsoir à tous.
Restez Eva, on part au Maroc où une bibliothèque rouvre ses portes, chez vous, dans la ville de Fès.
Oui, alors je ne vous en parlerai pas s'il ne s'agissait pas évidemment d'une bibliothèque absolument exceptionnelle. C'est simple, la Khizanat al-Qarawiyyin de Fès est la plus ancienne bibliothèque au monde. Elle a été fondée en 859, c'est-à-dire 4 siècles juste avant la Sorbonne. Mieux encore, elle a été fondée par une femme qui s'appelait Fatima Al-Firhli et aujourd'hui elle a été restaurée par une autre femme, Aziza Shaouni. 3 années de patiente restauration ont été nécessaires pour qu'elle retrouve sa splendeur. Et croyez-moi, de la splendeur, ce n'est pas ce qui manque à cette bibliothèque qui possède une collection inestimable de 4000 livres et manuscrits précieux, dont un Coran du 9e siècle, écrit en écriture koufique sur peau de chameau. Et si on ajoute quelques élèves prestigieux qui l'ont fréquenté, le philosophe juif Maïmoudine ou l'historien Ibn Khaldoun, eh bien on comprend mieux l'émotion de tous devant cette renaissance. La Khizanat devrait rouvrir dans les semaines qui viennent.
Et j'imagine qu'il y a dans cette réouverture et dans cette restauration, Anthony, une volonté du Maroc pour montrer une autre image de l'islam.
Bien sûr, c'est même évident. Qu'entend-on depuis plusieurs années, et notamment depuis la montée en puissance, vous savez, de l'État islamique en Irak et en Syrie, des musées qu'on saccage, des merveilles archéologiques qu'on dynamite, des livres qu'on brûle, des statues qu'on brise, alors que de l'autre côté de la Méditerranée, au Maroc, c'est une librairie qu'on restaure et surtout des formations d'imams modérés qu'on finance. Le message est limpide. D'un côté, la barbarie, de l'autre, le vrai, le seul islam, celui de la culture et de la tolérance. Et pour être encore plus parfaitement compris, le roi du Maroc, qui traditionnellement, vous savez, a le titre de commandeur des croyants, eh bien, il s'est exprimé escalité le 20 août dernier sur le terrorisme, le djihad et même l'État islamique. Et qu'a-t-il dit? Eh bien, ceux qui s'engagent dans le terrorisme au nom de l'islam ne sont pas des musulmans. L'islam n'est pour eux qu'un prétexte pour justifier leurs crimes et leurs folies. Ils se sont éloignés du droit chemin et de leur destin est de brûler en enfer pour toujours.
Et vous pensez, Anthony, qu'une sorte de lutte s'organise pour le leadership dans le monde musulman?
C'est exactement ça. D'un côté, vous avez un islam modéré dont le leader naturel serait le roi du Maroc, commandeur des croyants. De l'autre, un islam obscurantiste et rétrograde avec pour alliés les Saouds, gardiens des deux mosquées saintes de l'islam, Médine et la Mecque. Une sorte de Game of Thrones version arabe. Sauf que les moyens des deux monarchies, elles, ne sont pas du tout les mêmes. Le Maroc reste un pays pauvre, sans pétrole et sans gaz, qui pèse 7 fois moins lourd économiquement que l'Arabie Saoudite. Alors, comment compenser ce déséquilibre? Eh bien, de deux façons. D'une part, le Maroc peut compter sur une diaspora nombreuse, notamment en Europe. 4,5 millions de Marocains vivent hors du pays et sont autant de messagers d'un islam quiétiste et modéré. Et puis ensuite, contrairement aux Saouds, c'est parvenu, les Alaouites marocains sont la plus ancienne dynastie arabe encore régnante dans un pays, le Maroc, qui est l'exemple même d'un état-nation ancien en Afrique et dans le monde arabe, plus de 1000 ans d'histoire continue. Et c'est exactement cela que raconte la restauration et la réouverture de la bibliothèque Khizanat al-Qarawiyyah de Fès, la résilience d'un pays, d'une nation et d'une culture, et surtout d'une version de l'islam qui honore les arts, la culture, l'histoire et la tolérance.
Anthony Bélanger, merci. On va aller la visiter, cette bibliothèque, avec Eva Bétan et vous. Hein, vous acceptez, Eva? On ira ensemble. Un mot du téléphone sonne à 19h20 ce soir sur la vie intellectuelle en France. Alain Passerelle veut venir également au Maroc. En ce moment, les idées qui dominent le débat public sont pessimistes. Elles disent que la France est en déclin, que tout fout le camp, que c'était mieux avant, que l'avenir du pays est en somme dans son passé. Avec la présidentielle, nos oreilles sont déjà pleines du roman national de nos ancêtres les Gaulois à nos jours. La vie intellectuelle de notre pays est-elle moribonde? Les intellectuels ont-ils été remplacés par des figures plus ou moins médiatiques? Vos questions au 01 45 24 7000 sur franceinter.fr et via Twitter avec le mot-clé Telson.